Chapitre 2. Depuis que M. de Mussidan avait intérêt à ce qu'on parlât de Geneviève dans les journaux, il avait changé d'attitude avec Faré, qui n'était plus effaré, mais ce brave Faré, ce cher garçon, ce jeune ami, ne redevenant effaré que lorsqu'il n'avait pas pu s'acquitter assez vite des besognes dont on le chargeait. Et encore, était-ce seulement dans le particulier, au déjeuner ou au dîner, que M. de Mussidan s'exprimait librement sur le compte de son jeune ami. « Il est joli, votre effaré. Je lui ai demandé avant-hier de faire passer dans son journal une petite note sur ton dernier concert, et rien n'a encore paru. » Mais Geneviève ne permettait pas qu'on accusât Faré. « C'est qu'il n'aura pas pu. Si quelqu'un est heureux de nous rendre service, c'est bien lui. » Cela l'honore de nous rendre service. Quand il se présente quelque part en mon nom, cela montre qu'il a des relations. S'il nous rend quelque léger service, ce qu'il reçoit de moi en se parant de mon nom sont d'un tout autre ordre. Et il le sait bien, le gaillard. C'est là ce qui le stimule quelquefois. Car enfin, vous devez bien comprendre que ce n'est pas pour vos beaux yeux qu'il s'occupe de notre publicité. Et comme M. de Mussidan aimait à imiter les gens, ce qui, selon lui, les rendait tout à fait ridicules, il imitait Faré se présentant dans les journaux. « Je viens vous demander de faire passer cette petite réclame. » C'est Faré qui parle. Il est poli, aimable, insinuant. Le secrétaire de la rédaction, pressé et ennuyé, lui répond en bougonnant ou ne lui répond pas du tout. Faré insiste. « À propos de qui, votre réclame ?»« Mademoiselle de Mussidan. » La fille du comte de Mussidan qui... Là-dessus, le ton du secrétaire de la rédaction change, il se fait gracieux et l'on envie Faré qui me connaît. Vous verrez que cela le servira, le posera. Il arrivera, ce garçon, et je ne lui aurais pas été inutile. En effet, il était arrivé, ce garçon, mais non pas précisément parce qu'il connaissait M. de Mussidan. C'était le moment où certains journaux, pour le plaisir de leurs lecteurs ou pour les besoins des couturières, des parfumeurs, des épileuses, des chausseurs, venaient d'inaugurer les chroniques mondaines dans lesquelles, en racontant ce qui se passe, ou plutôt en inventant ce qui ne se passe pas dans le high life, on peut glisser toutes les réclames assez bien payées pour figurer à cette place d'honneur. Un jour que Faré était en train d'écrire son bulletin commercial, son rédacteur en chef l'avait fait appeler. « Vous en avez assez des halles et marchés. Ne dites pas non. Il y a mieux que cela en vous. Je vous tire du riz et vous mets à la poudre de riz. À partir d'aujourd'hui, vous me ferez des chroniques mondaines. » « Je n'y entends rien. Vous n'entendiez rien non plus au bulletin commercial. Vous vous y êtes vite fait. Vous vous ferez tout aussi vite au bulletin du High Life. » Cela n'est pas plus difficile, et même, il n'y a pas besoin de la même exactitude. De quel nom me signerez-vous cela? Je n'y ai pas pensé. Un nom chic, un nom de fleurs. Quelles sont les fleurs à la mode? Voulez-vous gardénia? Si cela vous plaît. Le gardénia est une fleur distinguée. Va donc pour gardénia. Vous commencerez demain. Mais... Ne vous inquiétez pas, cela ira très bien. Vous parlerez de tout ce qui se passe dans le grand monde, des réceptions, des bals, des dîners, des mariages, des séparations de corps, des baptêmes, des enterrements. Vous citerez des kyrielles de noms. Vous donnerez les menus des dîners, vous détaillerez les toilettes. Vous parlerez de tous les sports, hippiques, nautiques, etc., mais au point de vue mondain. De même, des déplacements en sport némrodique. Si le mot ne se dit pas, vous l'inventerez, cela fera bien. Faré était inquiet. Quelle singulière idée de lui donner à faire la chronique du grand monde, lui qui vivait au haut des buttes Montmartre et qui était un paysan. Malgré l'envie qu'il avait d'abandonner le riz, la poudre de riz lui fit peur. Il voulut se défendre. Je crains de ne pas vous réussir cela, puisque vous jugez que je peux faire autre chose que les marchés. « J'aimerais mieux vous écrire des chroniques ordinaires. »« Il ne s'agit pas de ce que vous aimez mieux, mais de ce qui est utile au journal, et c'est une chronique mondaine qu'il me faut. Si vous ne l'acceptez pas, je la donnerai à un autre. Il y a une place à prendre. Acceptez-la, croyez-moi. Vous me remercierez prochainement. Le temps de la discrétion est passé. Les gens qui s'amusent veulent qu'on sache comment ils se sont amusés, et ceux qui ne s'amusent pas veulent savoir comment s'amusent les heureux de ce monde. Ça leur fait de belles relations en imagination. Il faut donner les premières du monde comme on donne les premières du théâtre. D'ailleurs, toutes les femmes ne sont-elles pas aujourd'hui des cabotines, continuellement et partout en représentation, qui veulent qu'on parle d'elles, de leur personne, de leur toilette, de leur goût, de leurs amants, de leurs enfants si elles n'ont pas d'amants? Essayez, vous verrez quel succès vous obtiendrez. Il y aura des femmes qui se déshabilleront devant vous pour vous montrer le signe qu'elles ont sous le sein, de façon à ce que vous le décriviez bien. Il y aura des maris qui vous déshabilleront leurs femmes eux-mêmes. Je vais essayer. Très bien. Seulement, ne vous avisez pas de me faire ces chroniques dans un style simple et naturel. Plus vous serez affecté, plus vous serez maniéré, plus vous serez prétentieux, mieux vous réussirez. Si vous arrivez à être ridicule avec talent, votre fortune est faite. Il prit un paquet de journaux couverts de marques au crayon rouge. Voilà les modèles du genre. Et, lisant, Madame Martin, née Brossard, est toujours charmante. Elle portait une robe d'un bleu divin, bleu de madrigal. Une fleur d'aubépine qui avait un parfum de New Moon Hay. Puis, se mettant à rire, il faudra soigner ses salades. Il prit un autre journal et continua de lire. Elle s'appelle Marguerite, de ce doux nom prédestiné que le printemps, avec son vol hésitant et capricieux de papillons, ne se lasse jamais d'écrire sur l'émeraude des prés en lettres blanches au cœur d'or. « Je ne pourrai jamais !» s'écria Faré. « Si, si, vous vous y ferez, ça s'attrape très bien. » Il faudra vous procurer aussi une collection de citations en toutes les langues, excepté en grec et en latin, ce qui vous donnerait un air pédant. « Oh, Juventu primavera della vita !»« La donna è mobile !»« Alas, pour Yorick !»« Never, oh, nevermore !» Il faudra vous en procurer en espagnol, c'est très chic. Pas d'allemand, n'est-ce pas ? J'espère que nous aurons des mensualités de couturiers, de parfumeurs, de modistes, de fleuristes, comme nous en avons des financiers. Je vous donnerai les noms en vous disant combien de fois ils doivent revenir par mois dans le journal. Les exigences de cette nouvelle profession, et surtout les ignorances de Faré, avaient eu pour résultat de le rapprocher de M. de Mussidan, qui était devenu une sorte d'oracle pour lui, qu'il consultait dans ses heures d'embarras, et elles étaient nombreuses. Porte-t-on une chaîne à son gilet quand on est en habit? Quand on sort à cheval avec une femme, doit-on se tenir à sa droite ou à sa gauche? Peut-on mettre la cravate noire avec l'habit? Question terrible pour lui, qui se représentait à chaque instant et à propos de tout, et que M. de Mussidan tranchait en formulant les lois du cérémonial comme un maître d'école débitant une règle de grammaire. Et pour les généalogies, ce casse-tête qui lui valait tant de lettres de réclamation, combien lui était-il plus utile encore? Mais il les faisait payer, ses conseils et ses leçons, M. de Mussidan, au moins par le ton avec lequel il les donnait. Quelle pitié, quel mépris, non dans ses paroles mêmes, mais dans son air. Pour l'adoucir, et quand il se sentait trop honteux, Faré commençait par lui montrer un bout d'article sur Geneviève dont il pouvait parler maintenant, utilement et d'une façon productive. Par malheur, le style qu'il avait adopté par ordre ne lui permettait pas de dire ce qu'il aurait voulu. Il fallait qu'il le soutînt, ce style extraordinaire, et qu'il fût ridicule même quand il avait le désir d'être simple et sincère. La toute charmante mademoiselle Geneviève de Mussidan, de la grande famille des Mussidan et des Puy-Laurence, qui remonte au dernier comte de Toulouse, a enchanté hier l'auditoire d'élite de la duchesse de... Ce n'est pas une musicienne, c'est Sainte Cécile elle-même. Ses mains d'enfant égrènent des perles, tandis que son âme magnétise le clavier, qui devient un buisson printanier d'où s'envolent les gazouillements d'amour des rossignols. Cependant, malgré la collaboration de M. de Mussidan, et aussi malgré celle des maris qui lui envoyaient des notes sur leurs femmes, et celle de certains jeunes gens qui venaient lui demander de dire quelques mots madrigalés de telle femme à la mode, il y avait des jours où il regrettait presque les Suifs. Au moins, ils n'ont pas de généalogie. Combien de fois, remontant à Montmartre pour aller manger le pot-au-feu ou le rata que sa mère avait préparé, désespérait-il de trouver les menus qu'on lui demandait, avec le service soit à la française, soit à l'anglaise, soit à la russe. Là encore, il devait formuler, aussi bien pour le service que pour les plats. « Je t'ai préparé un bon dîner, lui disait sa mère, un pot-au-feu avec un chou de notre jardin. » Et malgré les menus raffinés qu'il venait d'inventer, les laitances de carpes à la romaine, les foies d'écrevisses à l'alsacienne, les panneaux à la Dubarry, les œufs de vanneau à la morille blonde, il mangeait avec un plaisir extrême ce pot-au-feu au chou de notre jardin.